Pourquoi j'ai mal? Pourquoi aller chez la gynéco m'angoisse? Pourquoi ma sexualité ne ressemble pas à ce que je vois, à ce que j'entends autour de moi? Pourquoi je ne suis pas normale? Bienvenue sur Journal des Vulves. Deux fois par mois, c'est une discussion sur des sexualités en dehors des normes qui s'ouvrent, pour faire la paix avec sa vulve. Ce podcast, c'est un peu comme le rendez-vous chez la psy manquée, l'occasion de parler de ce qui va pas. J'interromps ta lecture de l'épisode pour te prendre 10 secondes, est-ce que tu te souviens de cette voix?
Si tu savais ça! Pourquoi tu m'as amené me faire excuser en fait? Et ça n'existe pas une femme noire forte. On est oui, on peut être forte, mais on n'est pas invincible en fait. Si Dieu m'a créé comme ça, ça veut dire que lui je suis beau à ses yeux. Donc moi je m'en fous des hommes moi. J'étais destinée à vivre ça en fait.
Fatou était la première invitée au micro. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'est publié le livre Penser l'excision que j'ai coécrit avec elle et qui revient sur son parcours. Et pense au-delà de l'excision. Si tu veux en savoir plus, je te mets tous les liens en barre d'infos. Il est disponible dès à présent sur Amazon, la Fnac, et tu peux le commander aussi dans ta librairie près de chez toi. Si tu le lis, n'hésite pas à nous taguer sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse échanger avec toi dessus. Ça nous ferait très plaisir.
Until I started to feel physical pain, then I had to go to the doctor because I didn't know what was wrong with me.
L'important, c'est de trouver cette liberté de parole par rapport à une douleur au moment de la pénétration.
Établisse tout doucement la relation que tu entretenais avant avec ton corps.
Je veux dire, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer.
Which many people don't think is even real, and I don't even know what the fuck to say about that.
Mais comment veux-tu kiffer si avant, pendant et après l'acte, tu penses plus à comment tu plais plutôt qu'à ce que tu veux, ce qui te fait kiffer et comment y arriver?
Je veux dire, si la société elle-même n'était pas aussi violente vis-à-vis des femmes.
Je veux juste redevenir celle que j'étais.
Je sais, le podcast s'appelle Journal des Vulves, et on s'attend à entendre la voix de femmes. Mais je trouvais intéressant, et c'est quelque chose qui m'a été demandé sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, de faire entendre des voix masculines. Quel rapport les hommes entretiennent-ils avec leur anatomie? Comment ils pensent les notions de consentement et de désir? Quel rapport ont-ils avec la douleur? Et est-ce qu'elle entre en compte dans leur sexualité? Et comment ils arrivent à gérer celle de leur partenaire? C'est toutes ces questions qu'on s'est posées au sein de cet épisode. Ici, j'ai interrogé que des hommes cis, hétéros. Ils sont pas représentatifs de tous les hommes et de toutes les masculinités. Mais je trouve que leurs expériences témoignent assez bien d'une grande majorité d'hommes. Quelles expériences ont marqué ton rapport à ton corps, à ta sexualité? Ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, je n'avais interviewé que des femmes. À la question « Quelles sont les expériences qui ont marqué ta sexualité ?», elles faisaient souvent référence à une sexualisation non consentie, comme le regard des hommes dans la rue. Ce n'est pas le cas pour les hommes, et c'est naturellement qu'ils m'ont tous parlé de la même chose. Comme si leur sexualité n'avait commencé qu'avec les premiers rapports.
Alors, je pense que c'est les premiers rapports sexuels que tu as avec quelqu'un qui inclut quelqu'un d'autre, quoi. Genre en mode tout ce qui est sexualité autonome, enfin voilà, ça j'avais pas de problème parce que c'était moi, c'était mon corps, mais c'est plus quand j'ai commencé à avoir des rapports avec d'autres personnes, quoi.
Je regardais mon corps moi-même. Et après, je l'ai mis face à quelqu'un et ça m'a stressé, comme je suppose à peu près tout le monde. Et c'est la première fois que je me suis dit, est-ce que mon corps y plaît, est-ce que mon corps y plaît pas. Mais sinon, j'ai pas d'expérience traumatisante vis-à-vis de ça.
Et sur le moment, tu pensais quoi?
Je me disais, est-ce qu'elle va trouver ça normal? Est-ce qu'elle va trouver ça normal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je devrais changer quelque chose? Enfin, là, je parle surtout pour, je sais pas, la musculature ou des trucs comme ça. Mais sinon, non, j'ai pas de... Ça n'a jamais été une préoccupation très très importante chez moi.
Et ça s'est bien passé?
Oui, globalement. À chaque fois que j'ai eu un partenaire et que je suis apparu nu devant elle, enfin devant mon partenaire, ça n'a pas posé de problème, j'ai pas été trop stressé. Ça s'est jamais mal passé.
Moi, mes premiers rapports sexuels étaient plus dans... la bonne humeur et dans l'amusement, parce que on était tous les deux gênés, on était tous les deux prêts à passer au rapport ensemble, mais bon, il y a eu des circonstances amusantes et du coup ça a totalement détendu l'atmosphère parce qu'on s'est mis à rigoler et tout, et ça m'a appris que voilà, J'ai pu comprendre qu'un rapport, c'est pas juste quelque chose qui doit être fait, quelque chose dont on doit se forcer à faire, c'est plus quelque chose qui se fait dans la bonne humeur et avec confiance et amusement.
Pour le coup, ouais, vraiment, bah, j'ai eu de la chance. Enfin, la chance, c'était comme ça, mais la personne avec qui j'ai fait mes premiers rapports faisait aussi ses premiers rapports, donc il y a toute une part de la. Un peu moins de pression, quoi.
Ouais, c'est plus de la découverte.
Voilà. On est tous les deux à, à découvrir, donc il ne peut pas y avoir de jugement de l'un ou de l'autre.
Est-ce que la pornographie a joué un rôle important dans tes représentations du corps et de la pratique ?
Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, comme tout le monde, j'en consomme. Mais on m'a souvent répété qu'il ne fallait pas se dire que c'était comme ça que les corps étaient, comme ça que ça se passait. Donc j'ai fini par le comprendre et me dire que c'était pas comme ça que c'était. Mais évidemment que ça joue sur, je sais pas, mes désirs. Comment j'ai envie de faire, comment j'ai envie de pas faire. Même juste ce que j'aime maintenant, à mon avis, c'est vraiment influencé par ça. Mais voilà, je suppose comme tout le monde un peu.
Et cette influence, tu la trouves négative ou positive ?
Jusqu'à présent, on m'a pas posé de problème de barrière. Je pense que les limites, c'est s'il y a des pratiques que j'ai envie de faire et que mon partenaire n'a pas envie, ça peut être énervant, dans le sens où ça va mettre un blocage, que ce soit de son côté, de mon côté, et va y avoir un hic, mais jusqu'à présent, c'est jamais arrivé. Moi, je pense que c'est ça, les limites, je pense que c'est ça, un truc qui peut être dérangeant avec la pornographie, mais jusqu'à présent, non, j'ai pas eu de soucis.
Mais plus dans les corps, la vision du corps de la femme, de l'homme et tout, ça peut créer des complexes et tout. Enfin, moi, je sais que j'en ai pas eu, mais je comprends pourquoi ça peut créer des complexes, que ce soit féminin ou masculin. Et c'est aussi un peu, ça peut être dangereux, enfin, je dis pas que c'est à bannir, mais ça peut être dangereux dans la construction, enfin, voilà, toutes les injonctions un peu de la société, le poids, la taille, même des fois des clichés racistes, sexistes dans la pornographie qui peuvent un peu te faire croire à certains trucs par rapport à la sexualité et qu'en fait tu te rends compte que pas du tout.
Ça a toujours été, enfin, les acteurs ont toujours été performants et j'ai toujours vu que il fallait absolument tenir le plus longtemps possible et avoir une réaction de fou, etc.
Je me suis rendu compte que la pornographie n'avait rien à voir avec la sexualité. Ah, c'est un peu le même processus que quand tu te rends compte que les acteurs d'Hollywood et tout, ils représentent pas forcément tout le monde, quoi. C'est un peu les idéaux physiques et physiques. Et bah, pour la pornographie, c'est pareil, quoi.
Est-ce qu'on t'a appris la notion de consentement quand t'étais plus jeune ?
Je ne semble pas en avoir déjà parlé avec mes parents. Je pense pas que mes parents soient venus me voir et m'aient dit qu'il faut faire ça, qu'il faut que c'est archi important et qu'il faut demander. Et que, enfin, vraiment, je suis pas sûr d'avoir eu cette discussion avec mes parents. Je l'ai plutôt appris tard, avec une de mes partenaires notamment qui m'a sensibilisé au sujet. Mais non, et d'ailleurs, je me suis rendu compte que dans d'autres relations, j'ai pas toujours été parfait sur ces points-là. Et donc, non, c'est plutôt venu tard, je dirais, la notion de consentement, au sens large et au sens plus détaillé que juste il y a oui ou il y a non. Au sens de tout le consentement, de ce que ça peut être, de ce que ça peut impliquer. Le consentement où le vrai consentement, c'est-à-dire où la personne veut, on a envie, et le consentement où elle accepte et elle dit oui parce que bon, sinon c'est galère. Déjà, cette différence-là, j'ai appris assez tard.
On l'a pas enseigné directement, genre j'ai pas eu de discussion avec mes parents sur le sujet. C'est-à-dire que, enfin, j'ai été élevé, je pense, pas dans un féminisme, mais il y a ma mère et je suis le seul mec avec deux sœurs dans ma famille. Donc directement, tu apprends le respect de la femme. Et en tant qu'hétérosexuel, je vois ma sexualité avec une femme. Donc consentement, respect de la femme et tout, tout ça c'est lié. Donc je me suis tout de suite fait les rapprochements. Puis après, dans ma propre éducation, avec mes lectures, tout ce que je regardais et tout, c'est venu assez directement, mais c'était assez logique pour moi, en vrai, je pense.
Je pense pas qu'on me l'ait apprise. Je pense que je l'ai apprise un peu toute seule. Dans le sens où, si je sais que quelque chose... que je ne veux pas quelque chose, et que on me l'impose, je vais pas trouver ça bien, et je vais être frustré, et dégoûté, et voilà, toutes les émotions qui vont avec. Et du coup, si je sais ça, je veux je ne veux pas que ce soit d'autres puissent avoir ce sentiment-là. Genre, je sais que si je te tape, je vais me dire, mais si moi elle me tape, je vais te prendre mal, donc j'ai pas à la taper. Enfin, attends, c'était bizarre comme truc, mais si y a une personne qui a un rapport sexuel non consenti, qui cherche à avoir un rapport sexuel non consenti avec moi, je vais pas être content, donc je vais pas le faire à autrui.
Cette notion de consentement, elle est pas complète, elle est pas du tout poussée jusqu'à où est-ce qu'elle devrait être. C'est-à-dire que on dit globalement, j'entends dans les réseaux, j'entends ce que mes parents disent, oui, il faut attendre qu'il y ait le consentement, il faut le consentement, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que bon, on nous dit, si elle dit pas non, c'est bon. Mais ça va pas au-delà, alors que ça devrait, c'est-à-dire sur des questions comme, est-ce qu'elle veut vraiment, est-ce qu'elle accepte, est-ce qu'elle dit oui en se forçant, toutes ces questions-là, c'est encore un peu flou, et c'était pas complet. Je dirais que c'est vraiment en grandissant avec certaines personnes, certaines rencontres, qui ont fait que je me suis posé ces questions, que je maîtrise pas encore, mais que je me suis posé ces questions, et c'est le hasard des rencontres. C'est pas, si je me contentais de l'instruction qu'on me donne à l'école, dans certaines pubs ou certains films, ou de mes parents, ça aurait pas été complet. J'aurais été, je me serais pas remis en question sur certains trucs. C'est vraiment le hasard des rencontres. Et c'est le truc qui est triste, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui font ces rencontres, quoi.
Est-ce que tu as grandi avec l'idée que les hommes ont toujours envie?
J'ai pu le penser, je pense. Et puis, en fait, je me suis rendu compte... je pense que j'ai pu le penser que, en gros, s'il y en avait un des deux qui voulait pas, c'est la femme. Mais ça, c'est encore un cliché, je pense. C'est un truc... tant que t'es pas renseigné, tu crois à ça. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a les extrêmes. Il y a des gens qui veulent... c'est la libido, elle est propre à chacun. Il y a des gens qui veulent pas du tout, des gens qui veulent tout le temps, et des gens entre les deux, et que ce soit homme, femme ou autre, il n'y a pas de moyenne, quoi.
Moi, j'ai souvent prêché ça pour moi, dit que moi, j'avais souvent envie. Et en grandissant, je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais être, c'est-à-dire quelqu'un qui avait tout le temps envie, parce que pour moi, c'était ça, un vrai homme. Et ouais, clairement, pour moi, c'était ça. C'était en mode, il fallait avoir envie, c'était logique, et c'était pas le cas... C'était bizarre, quoi. T'étais pas stylé.
De par déjà la pornographie et par ce dont j'ai toujours parlé avec mes amis, j'ai toujours cru que l'homme avait des envies. Et ça s'est joué contre ma faveur quand j'ai mes premières relations sexuelles. Parce que je pensais que l'homme avait toujours envie. Dès que ma partenaire avait envie, je pensais que moi aussi j'avais envie. Et que ça allait de soi. Sauf que non, et c'est pas comme ça. Et du coup, par moments, j'ai... Inconsciemment, je me forçais à me mettre dans le mood. Et à essayer de faire plaisir à ma partenaire, etc. Alors qu'en soi, j'aurais absolument pas dû. Si j'en ai pas envie, j'en ai pas envie. Et ça s'arrête là. Et voilà, si... des fois, ça m'arrivait de pas avoir d'érection... Et là, j'étais vraiment en train de remettre en question ma sexualité. Genre, pour moi, c'était un truc qui m'était banalisé, normal, et que tous les hommes devaient avoir. Et moi, ça marchait pas. Quoi ? Pourquoi ça marche pas ? J'ai fait passer ça pour plusieurs choses. Déjà, il y avait une part de stress au tout début, qui était vraie. Puis après, à force, c'était plus du stress, mais je pensais que c'était encore du stress. Puis, je pensais que c'était moi qui avais un problème érectile comme pour les soixantenaires, genre. Et que j'avais pas assez de testostérone, des trucs comme ça.
Est-ce que t'as déjà ressenti une pression sur ta libido?
Oui, quand même. Comme on disait tout à l'heure par rapport au fait que je suis un garçon, et que surtout je me suis créé un personnage de quelqu'un qui voulait beaucoup, donc si je respectais pas ce personnage, je me sentais même plus moi-même. Et j'avais l'impression de décevoir la personne qui avait potentiellement signé pour le personnage que je décriais. Oui, je me suis déjà dit qu'il fallait que je fasse. Et surtout, c'est au-delà de ça, c'est que quand ça, je voulais pas, je comprenais pas pourquoi. Ça me paraissait inconcevable que juste je voulais pas. Et ouais, j'ai déjà ressenti une pression là-dessus. Ça a pas bouleversé ma vie, C'est passager, c'est des petites discussions. Après, j'ai eu de la chance d'avoir un partenaire qui me disait, qui me rassurait et qui comprenait que c'est possible de ne pas avoir des envies. Mais il y a quand même un moment. Genre, j'ai pas ressenti une pression de ce partenaire qui me disait c'est nul, tu veux pas. Mais moi, je me disais, je vois que ce qu'elle a envie, beaucoup plus. Enfin, quand même plus. Et je me posais des questions, pourquoi? Alors, dans ce cas-là, ça veut dire que je suis pas un vrai homme. Et donc, ouais, c'est ça, cette forme de incompréhension vis-à-vis du fait que des fois, j'avais pas envie. Genre.
Ouais. Alors, c'était plus moi qui me l'imposais, cette pression. Ou peut-être la société, si je peux dire. Le fait que, depuis que je suis petit, je pense qu'il faut... J'ai cru comprendre qu'il fallait à tout prix chercher à tenir le plus longtemps possible, à faire plaisir au maximum à la femme et tout. Et du coup, je laissais mon plaisir de côté. Au lieu de m'amuser, bah, je cherchais à rentrer dans une espèce de compétition avec moi-même et avec les autres hommes pour chercher à être le plus performant comme une performance sportive, alors que ça ne devrait pas être le cas.
Est-ce que pour toi, c'est important de formuler les choses?
Carrément, vraiment. Que ce soit avant le rapport, sur là, cette fois, j'ai pas trop envie de... Pendant le rapport, d'aiguiller l'autre personne sur ses propres plaisirs. Et même après le rapport, pas un débriefing, genre en mode 10 minutes, on fait point par point, mais genre un truc de ça, c'était bien, ça, c'était un peu moins bien. Là, tu m'as fait un tout petit peu mal, mais enfin, tu vois, ou des trucs comme ça, quoi. Communication, quoi. Vraiment la communication, que ce soit dans le couple et dans la sexualité de couple, faut pas hésiter.
Et est-ce que toi, t'as toujours été à l'aise avec le fait de communiquer, genre dès les premières fois?
En vrai, il y a peut-être une petite gêne qui s'installe au début, en tout cas moi, d'une relation. Parce que moi, la sexualité, elle est pour l'instant qu'en couple. Donc, mais cette gêne, elle est dans tous les domaines du couple, quoi. C'est pas que dans la sexualité, c'est sur plein d'autres trucs. Mais une fois que... Tu te rends compte que communiquer, formuler les choses, ça règle 99% des problèmes. T'hésites plus pour la sexualité aussi, quoi. Ça paraît logique. C'est quand même censé être un domaine où t'es censé te faire plaisir. Donc si t'arrives pas à formuler tes plaisirs, tu vas pas prendre de plaisir.
Et est-ce que pour toi, les femmes, quand t'as grandi en tout cas, elles avaient du désir, elles avaient des plaisirs? Ou est-ce qu'elles avaient juste un désir réactif, c'est-à-dire suscité par l'autre personne?
Ouais, enfin, je vois ce que tu veux dire. Bah, si on se base que sur l'éducation, alors les cours, l'école, je t'avoue que ouais, le plaisir féminin, on ne l'a pas du tout vu. Enfin, ça, je ne vais pas te l'apprendre, mais tout ce qui est plaisir féminin, clitoris, enfin tout, c'est des choses moi, que j'ai appris après, parce qu'il y a eu un espèce de mouvement quand même sur... revendiquer le plaisir féminin, mais en tout cas ça a pas été éducatif, hein, ça a pas été via les cours.
Pour moi les filles, elles avaient du désir, mais que en face to face. C'était pas je sais pas, ça me paraissait bizarre de me dire que elles faisaient les mêmes choses que nous, les garçons. Le truc, c'était que cette théorie, elle disait que pour les hommes qui peuvent produire beaucoup 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 de gamètes, donc de spermatozoïdes, la meilleure stratégie pour avoir le plus de descendants possible et donc le plus de descendants de qualité, c'était de parier sur la quantité. Donc, procréer beaucoup. Ce qui, dans ma théorie, excusait la tromperie, dans le sens où les hommes, ils voulaient plus, ils avaient plus envie et ils devaient multiplier les partenaires pour multiplier les chances d'avoir plein d'enfants et donc, parmi ces enfants, des enfants de qualité qui allaient faire survivre leur gène à travers eux. Et les femmes, elles, la meilleure stratégie, c'était... de choisir bien son partenaire. Donc, chez nous, avec notre réflexion actuelle dans notre société, c'est quelqu'un qui a une bonne situation, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui a des bonnes valeurs et tout. Mais sur le plan génétique, c'est juste quelqu'un qui a des bons gènes. Mais bref, les femmes, elles, leur meilleure stratégie pour avoir des bons enfants et donc survivre à travers eux, c'était de trouver un bon partenaire parce qu'elles, elles peuvent produire moins de gamètes, c'est-à-dire théoriquement un tous les 9 mois. Procréer une fois tous les 9 mois. Et donc pour eux, c'était elles la stratégie, elles avaient moins envie. Elles se basaient plus sur les sentiments, parce qu'on dit souvent que les femmes, elles sont plus dans les sentiments, elles sont plus dans la réflexion et tout. Et donc elles, pour elles, c'était plus de trouver quelqu'un de bien, avec des bonnes valeurs, des bons gènes, pour procréer très peu. Alors que les garçons, c'était autre chose, c'était ça ma théorie. Mais bon, je pense maintenant que je peux te dire qu'elle est fausse, que les filles, elles ont tout autant de désir, voire même plus. Et que voilà, quoi. Tout le monde a des hormones.
Au collège, tu revendiques, tu parles de pornographie, c'est limite très ouvert. Pas forcément c'est pas forcément positif, parce que souvent c'est un peu dégradant, tout comme ça. Mais sur la masturbation féminine, après, tu sais, sur les cours d'éducation sexuelle, ils disent que les deux, les femmes et hommes, se masturbent. Mais déjà, je pense que pour une femme, c'est plus difficile d'en parler, genre dans le collège ou au lycée. Mais en vrai, non, j'en ai entendu parler un peu tard, je pense, dans ma vie, genre entrée au lycée, je pense. Où là, comme je t'ai dit, les gens sont plus à l'aise pour parler de sexualité et plus ouverts d'esprit.
Est-ce que tu as déjà eu mal pendant un rapport ?
Jamais. Enfin, heureusement, tant mieux, quoi.
Jamais eu mal, jamais eu de traumatisme. Sur ce plan-là, je trouve que j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Honnêtement, quand j'entends un nombre incalculable d'histoires, bon, c'est plus les filles, mais je vois que les gars, je me dis que les garçons aussi ont ça. Mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir de traumatisme, de problème. Et pour l'instant, ma sexualité, et je suppose que c'est au début qu'il y a le plus de problèmes. Et comme j'ai passé le début, entre guillemets, et j'ai l'impression que je suis assez, assez bien tombé là-dessus, puisque j'ai pas du tout de choses à redire, quoi. Je me sens très bien dans ma sexualité.
Est-ce que ton partenaire a déjà eu mal ? Et est-ce que tu as des conseils pratiques pour gérer ces moments-là ?
Oui, j'ai déjà connu ça. J'ai déjà eu une partenaire qui a eu mal, qui a été une douleur chronique. Pas une fois dans un rapport, c'était une douleur qui allait se répéter, parce que cette personne faisait du vaginisme. Toi, tu connais ça, donc je vais pas t'expliquer ce que c'est. Mais cette personne-là faisait du vaginisme, et donc c'était une douleur comme ça qui était répétée.
Si la personne en face... comme je t'ai dit tout à l'heure, se force, enfin ne formule pas, essayez de voir quand même, c'est quand même une responsabilité en tant que partenaire sexuel de voir si l'autre est à l'aise. Donc moi j'espère en tout cas que j'arrive à m'en rendre compte avant, et si jamais la personne formule, ce qui est encore mieux, t'arrêtes ce qui fait mal déjà, ça c'est logique. Tu t'en parles avec la personne sur où sont les douleurs, à quel point et tout. Après, si jamais les deux ont encore envie, continuez sans bien sûr faire la pratique qui a causé les douleurs. Et en parler, après le rapport, encore en parler et voir si c'est quelque chose de récurrent, si c'est quelque chose où il faut consulter, enfin voilà quoi, toute la communication encore après.
Alors c'est déjà arrivé que ça fasse mal, mais dans ces conditions, on arrête tout de suite. Si l'un vous dit ouais non, ça me fait mal, on arrête, on essaie de voir ce qui va pas et tout. Et des fois où c'était pas dans l'amusement, ouais c'est déjà arrivé aussi, mais là à ce moment-là c'était juste des fois où je ne comprenais pas totalement ma sexualité et mon corps et mes envies. C'est des fois où moi, pour ma part, j'avais pas envie, et du coup je ressentais rien de particulier. Et là non, c'était pas drôle, c'était juste chercher à tenir le plus longtemps possible, chercher à faire plaisir au maximum à ma partenaire sans forcément prendre du plaisir de mon côté. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai eu du mal à me défaire pendant un moment.
J'avais cette envie de la soigner. Les premières choses que je me suis dit, c'est ça. Et je suppose que tous les garçons se disent ça. Et c'est pas ce qu'il faut se dire. C'est j'ai envie de la soigner, t'inquiète, je vais te soigner. Et très rapidement, je ne l'ai jamais dit, parce que je me suis dit que c'est pas ce qu'il fallait faire. Et je me suis très rapidement dit, et j'ai envie d'être là quand tu te soignes. J'ai envie d'être là à côté de toi quand tu te soignes, parce que c'est ça ce qu'il faut faire, c'est être juste une aide. Et c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire au début, pendant les premiers mois de la relation, pendant le flirt et tout, c'était beaucoup parler, beaucoup découvrir tout ce qui a pu déclencher ce vaginisme, tout ce qui a pu... c'était apprendre à la connaître, en vérité comme dans chaque flirt, mais là c'était d'autant plus important il me semble. Donc c'était apprendre à la connaître, apprendre les mots qu'elle voulait utiliser, les mots qu'elle voulait pas utiliser, apprendre déjà rien que me sensibiliser sur la sexualité féminine et sur les traumas qu'elles peuvent subir, parce que il y a des trucs que je me rendais pas compte, me rendre compte de la gravité des petits trucs, me rendre compte de la gravité, parce que moi dans ma tête il y avait le viol qui était grave, voilà, qui était pour être traumatisant, et globalement c'est tout. Les petits trucs dans la rue, en vrai, ça y est, elles allaient survivre, c'est pas la fin du monde. Et de me rendre compte que ça, tous les petits trucs, les remarques constantes des amis, de la famille que c'était important, et les petites agressions comme ça, l'accumulation, ou même pas l'accumulation, même une ça suffit, bah ça peut être traumatisant. Donc les premiers mois de la relation avec cette partenaire, ça a été comprendre et me renseigner sur le sujet, me comprendre ce que les femmes pouvaient ressentir, ce que cette femme-là pouvait ressentir, et ses traumas, et ses envies, tout ça.
Après, je pense que c'est difficile aussi parce que t'es dans ton truc, il y a l'excitation, donc tu captes pas trop tous les signaux. Mais moi, je sais que, en tout cas, je sais, chez ma partenaire, ce qui est capable de causer des douleurs. Donc, à chaque fois qu'on fait cette pratique-là, je suis plus attentif que sur les autres pratiques.
Ça a été la rassurer constamment sur le fait que c'est elle qui décidait, c'est elle qui avait le contrôle, c'est elle qui avait les clés notre sexualité c'était une voiture, elle avait les clés à tout moment pour arrêter, c'était elle qui décidait.
Enfin, je dis pas que je suis pas attentif sur les autres pratiques, mais j'essaie de capter plus facilement les signaux sur cette pratique là donc après c'est compliqué, c'est des fois on s'en fait exprès, on laisse passer, mais après moi j'ai la chance, ma partenaire formule facilement la chose, enfin souvent même. Donc voilà, mais ouais, sur l'intuition, faut essayer de capter, c'est mieux de le voir avant, si jamais tu sais que la personne en face a un peu du mal, ou alors va se dire, bon, on finit le rapport, et au pire, je vais avoir mal 5 minutes, ça c'est assez malsain en vrai, faut pas se forcer, quoi, c'est logique.
Regarder vraiment la partenaire, genre observer, et pas juste attendre la réponse oui ou non, ok c'est bon, je peux continuer, c'est observer dans le sens, un oui. Des fois, c'est possible qu'elle me dise oui, je regarde sa tête, elle veut me dire non, mais mille fois. C'est-à-dire que dans ce qu'elle me dit, c'est oui, mais ce qu'elle veut, ça se voit, mais de toutes les façons différentes, en juste la regardant, qu'elle veut me dire non. Et donc dans ces moments-là, on arrête. Et c'est ça qui est important.
Je mets toutes les pratiques sexuelles au même niveau. Enfin voilà quoi. Bah, comme je t'ai dit, en plus, j'ai ma partenaire qui a des douleurs, souvent c'est la pénétration qui cause les douleurs. Donc raison de plus pour pas la mettre sur un piédestal et vouloir à tout prix faire de la pénétration à chaque rapport quoi. Donc vraiment maintenant, comme je t'ai dit, préliminaire, enfin ça veut plus rien dire, enfin le sens du mot ne veut plus rien dire. J'appelle ça toujours comme ça, mais je l'appelle pas comme ça pour le sens que ça a quoi. Je sais pas si c'est très clair.
Il y a des moments où ça redescend. Ça faisait 6 fois qu'elle avait kiffé, qu'elle avait un orgasme. Hop, une douleur. Et là, ça met dans le mal de fou. Parce qu'on se dit, mais on comprend pas. Jusqu'à présent, ça marchait, pourquoi ça marche pas? Et bah, c'est juste des fois, ça marche pas, c'est la vie, il n'y a aucun problème. Et il faut pas se dire que tous les efforts ils sont gâchés et que voilà. Des fois, il y a une rechute et c'est rien, c'est pas grave, on repart, on refait les mêmes erreurs. Si pendant 3 mois ça se passe bien, après ça se passe mal et ça peut être un micro-trauma de que ça se passe pas une fois. Et donc après, ça entraîne que ça va plus. Bah, c'est pas grave, on refait le processus. On parle doucement, on fait des petits tests, à ton rythme, tu décides. Petit à petit, ça revient et on repart dans une bonne phase.
Est-ce que tu parviens à t'approprier ton corps et tes désirs?
Récemment, j'ai fait quelques avancées là-dessus. Ça reste encore minime, mais en fait, c'est plus que je commence à peine à me comprendre que la sexualité, c'est pas, ça m'est pas imposé et c'est pas, ça m'est tombé dessus et elle est comme elle est. C'est-à-dire que j'ai des impacts dessus, je peux la changer. Et surtout que... Ouais, c'est ça, c'est en se posant des questions, les vraies bonnes questions, et en essayant d'agir, je peux la changer. C'est pas quelque chose qui est imposé et qui me tombe dessus. En mode, chacun a une sexualité bien définie à la naissance.
Aucun souci du côté de la sexualité, vraiment à m'attribuer mon corps, mes désirs. Vraiment, comme j'ai dit, la communication dans mon couple, c'est quelque chose, pour le coup, qu'on met sur un piédestal. Vraiment, c'est vraiment le plus important. Donc, j'ai aucune problématique par rapport à ça. Après je dis pas que peut-être au début il y en a eu un peu sur les premières fois, les trucs comme ça, mais très vite ça s'est effacé et maintenant j'aurais aucun souci.
Et avec tes amis, est-ce que tu avais des espaces d'entre-soi masculins et est-ce qu'il y avait des bonnes discussions sur la sexualité dans ces espaces-là?
Non, 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 non. On est trop cons pour ça. On est tous là à essayer de prouver aux uns et aux autres qu'on est les meilleurs et tout. Et je pense qu'on cache aussi la réalité des faits dans la plupart des cas. Moi aussi, ça m'est arrivé de faire ça. de chercher à montrer que wow, j'ai réussi à tenir je sais pas combien de temps, alors qu'en réalité, voilà, il s'est rien passé du tout. Mais bon, à force d'expérience, j'ai compris que ça ne servait à rien de chercher à faire le mec hyper viril et tout, et le mec performant. Mais c'est bon, c'est le cas pour ma part. Mais je sais que dans mon entourage et que chez d'autres hommes, c'est pas encore le cas et qu'ils vont toujours chercher à prouver à leurs amis qu'ils sont les meilleurs, qu'ils ont réussi à faire tel truc, à voir telle personne, à avoir tel rapport avec telle personne, etc.
Dans mon groupe, il y a peu d'hommes qui sont très 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 sensibilisés à ces sujets-là. Ce qu'elles peuvent m'apporter, c'est des petites pratiques, des petits tips qui peuvent grave faire plaisir, qui peuvent aider, qui peuvent faire plaisir à mon partenaire, qui peuvent aider. Mais ça s'arrête là. Sinon, non, il n'y a pas trop de conversations qui apportent plein de choses sur ces sujets.
Je me suis fait la réflexion, parce que j'ai dû faire un travail sur le féminisme là, dans mes cours, et je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de groupes d'amis masculins, parce que quand t'es jeune, enfin quand t'es adolescent, tu vas plus vers les mecs. Enfin, c'est plus simple quand t'es un mec. Et aussi, je suis dans des équipes de sport, donc sport non mixte, donc là aussi. Et pour le coup, c'est pas là où j'ai eu des discussions très ouvertes sur la sexualité, ni sur les femmes en général. S'il y a eu des discussions, je dis pas que j'en ai fait partie, mais s'il y a eu une discussion, c'était pas forcément très, très intelligent, les discussions sur les femmes. Mais bon, après, en vrai, les discussions sur la sexualité, j'en ai eu que avec ma copine actuelle. Je t'avoue que j'en ai pas parlé avec ma famille. Enfin, des fois, on en parle, on est beaucoup plus à l'aise d'en parler maintenant, parce qu'on sait tous que, je dis pas qu'il y a un âge limite, mais je suis le petit dernier, j'ai 20 ans, on sait tous à peu près qu'il y a eu de la sexualité dans nos vies, donc on en parle. Après, c'est pas un sujet récurrent et où on est à l'aise de parler, mais avant, j'ai eu la petite discussion, je crois que c'était avec mon père, sur comme il savait que j'étais en couple, sur la sexualité, mais il m'a juste dit sur la protection, quoi. On n'a pas eu une discussion très ouverte. Donc ouais, non, la sexualité, j'en ai parlé plus avec ma copine et aussi avec mes amis, mais plus mes amis du lycée, de fac, où les discussions sont plus... Enfin, les gens sont plus un peu ouverts d'esprit et plus à l'aise pour en parler.
Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé à t'épanouir dans ta sexualité ?
C'est les discussions avec ma partenaire. Le fait que... elle voyait très bien que... Des fois, j'étais pas là. Genre, on avait un rapport, mais j'étais plus dans l'esprit de... Il faut absolument que je lui fasse plaisir au maximum, que je la fasse jouir et tout. Au lieu d'être dans le moment présent et de kiffer avec elle. Et elle voyait que j'avais un esprit plus sportif qu'autre chose. Et elle a essayé de m'en parler et de me détendre, me dire que ça va, on peut kiffer sur le présent et tout. On est ensemble, on n'a pas besoin d'essayer d'avoir des performances olympiques, quoi que ce soit. Et ouais, pour le coup, c'était vraiment les discussions avec ma partenaire qui m'ont fait réaliser que j'avais pas à faire tout ça.
De Virginie Despentes, ça m'a plus aidé à... Comment dire ? En fait, avant, je suppose comme plein de garçons, ou alors c'est moi, je suis quelqu'un de pas bien, mais j'avais l'impression que les femmes... Enfin, je me rendais pas compte que c'était galère comme ça d'être une femme, et qu'elle pouvait... En fait, j'avais l'impression que j'avais la tendance à minimiser ce qu'elle pouvait ressentir et les traumas. Et donc ce livre-là, il m'a pas tant aidé dans ma sexualité, mais il m'a aidé dans ma démarche d'aller plus vers les femmes et d'essayer de les comprendre. Et cette démarche-là, elle m'a aidé à améliorer ma sexualité et comment je pouvais les traiter et traiter notre sexualité.
Je pense que dans les débuts de la sexualité, comme j'ai dit tout à l'heure, la pornographie, c'est pas à exclure, parce que c'est là, quoi, c'est quelque chose qui existe. Faudrait qu'elle vraiment qu'elle devienne beaucoup plus saine, pour le coup. Mais la pornographie en tant que telle, c'est une forme de ressource qui a pu m'aider. Je sais pas, enfin, en vrai, je dis ça, mais parce que c'est une des seules ressources, en vrai. Mais la consommation excessive, pas du tout une ressource, mais juste une consommation saine, on va dire, de pornographie, une pornographie saine en plus, ça peut être une ressource. Après, c'est avec des lectures, avec même des films, enfin tu sais, c'est tout bête, mais avec des séries, je dis pas que c'est parfait, mais Sex Education, enfin tu vois, des séries comme ça qui peuvent te faire rendre compte de choses, même si tu es déjà à l'aise sur certains trucs, tu vas apprendre des choses. Après, moi, j'ai aussi une filière universitaire, genre, où on parle, par exemple, j'ai eu un cours où c'était que du féminisme au premier semestre, là, et à un moment, il y a eu une séance sur la sexualité, bah, ça remet aussi encore certains trucs que tu pensais acquis en question, et en fait, c'est remettre en question ce que tu penses pour acquis, mais ça sur tous les sujets du monde, hein, faut le faire, mais en tout cas, sur la sexualité, c'est comme ça que moi, j'ai réussi à déconstruire, je pense.
Tu devais adresser un mot à toi du collège ou plus jeune, tu lui dirais quoi?
Là, je lui parlerai de la partenaire où j'ai mal agi. Je dirais de pas faire ça, que c'est pas comme ça que ça se passe et que ça rend triste les gens.
Essayer de remettre en question. Après, je sais que sur le moment, c'est pas facile. Et aussi, moi, je sais que enfin, ça va. Mentalement, j'ai réussi à pas trop me mettre de complexe. Mais sur les complexes, enfin, je pense qu'à ces âges-là, c'est ce qui peut facilement être violent et détruire les débuts d'une sexualité, que ce soit les complexes, je sais pas, sur la taille, sur le poids, sur tout, vraiment, sur vraiment n'importe quoi. C'est vraiment pas prendre en compte, parce que souvent, t'es le seul à voir le complexe, enfin, t'es le seul à le voir le complexe sur toi, et que tu te mets une pression dingue, une pression sociale de fou par rapport à ça, alors que pour le coup, il y a plein de gens qui s'en foutent, quoi.
La communication, c'est vraiment l'aspect le plus important avec son partenaire. Il faut toujours bien chercher à écouter ce que l'autre a à dire, écouter les désirs de l'autre et voir si l'autre est d'accord pour faire telle chose ou telle chose. Et c'est normal d'avoir de mauvaises expériences, d'avoir des rapports un peu ratés, un peu amusants, etc. Ça fait partie du processus qui va vous créer votre vie sexuelle et votre relation avec votre partenaire. Et faut vivre le truc un peu comme une aventure, comme une histoire qui se construit petit à petit et qui devient de mieux en mieux.
Parler, 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 demander, demander, demander. Parler avec le partenaire pour savoir ce qu'il aime, pour lui dire ce que t'aimes, savoir si ça se passe bien, demander si tout se passe bien durant le truc, durant le rapport, en permanence. Et pour moi, le fait de parler, c'est la clé pour que ça se passe bien. Et qu'en soi, en faisant ça, rien ne peut mal se passer. Rien ne peut mal se passer si tu parles. Parce que si ça se passe mal en parlant, bah t'arrêtes. Si ça se passe bien en parlant, tu continues. Si ça se passe pas trop trop bien en parlant, tu peux ajuster pour que ça se passe bien. Bref, en gros, je lui dirais de parler, communiquer à fond pendant le truc, avant, après aussi. Et si tu fais ça, t'inquiète pas, ça va bien se passer, il n'y aura pas de soucis.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Journal des Vulves. Et merci à l'invité d'avoir pris la parole sur un sujet aussi tabou. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Et si vous voulez être la prochaine voix au micro, vous pouvez me contacter directement sur les réseaux sociaux. En barre d'infos, je mettrai les références du podcast et les ressources gratuites qui peuvent aider.